péché. Le reste te lasse. Le reste te lasse. Le reste te lasse. Le reste te lasse. Je ne peux pas oublier ton cul et le crin de beauté perdue. Sous ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, tu te le laisses, mais je retiens en laisse le souvenir ému de ton corps nu. Je reste amoureuse d'une idée qui s'éteint, figée à jamais, dans un miroir sans teint, d'où je te regarde, t'en sortir à merveille, épier ton bonheur, me le rend moins cruel. Le reste, je te le laisse. 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 Je ne peux pas oublier ton cul. T'es perdu sur ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse le souvenir ému de ton corps nu. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse.
Radio, Radio Active.
Bonjour et merci à tous d'être à l'écoute des programmes de Radioactive. On se retrouve pour un nouveau numéro du Mac d'Actu avec aujourd'hui un coup de projecteur sur le festival Culturissimo, un événement initié par les espaces culturels Leclerc et ce depuis 11 ans. Date officielle de lancement ce mercredi 17 avril 2024. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Sébastien Balu de l'espace culturel Leclerc d'Amboise. Bonjour Sébastien.
Bonjour Marlène, bonjour aux auditeurs, aux auditrices.
Alors rendre la culture accessible à tous et partout, c'est la démarche entreprise par les espaces culturels Leclerc depuis un petit peu plus de 10 ans au travers d'une initiative relayée dans plus de 70 villes de France, ce fameux festival Culturissimo. Est-ce que vous pouvez nous présenter cet événement, Sébastien ?
Tout à fait, Marlène. Donc, le festival Culturissimo, comme vous le disiez, existe depuis maintenant 10 ans. C'est donc la 11e édition au niveau national. C'est une première édition pour nous.
D'accord.
Sachant que le festival propose des rendez-vous culturels gratuits aux quatre coins de la France, essentiellement dans les petites et moyennes villes où sont implantés les espaces culturels. Et ce sont des événements essentiellement autour de la littérature.
Un mélange de styles, un petit peu. On parle de théâtre, de cinéma, de musique et de littérature. Et je crois savoir qu'il y a d'ailleurs, comme chaque année, un thème qui est des mots et des notes.
C'est ça, tout à fait.
Alors, quel est le programme de Culturissimo localement à Amboise ?
Alors, cette année, comme je disais, c'est donc une première édition pour nous et nous avons la chance d'accueillir M. Philippe Torreton, acteur de théâtre, de télé, de cinéma, sociétaire de la Comédie française et surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui, écrivain. Et il viendra donc nous offrir la lecture de son dernier roman qui est paru début avril, qui s'appelle Un cœur outragé. Et donc, il nous offrira cette lecture au Théâtre Beaumarchais le lundi 29 avril 2024 à 19h.
Alors, c'est quoi un petit peu le pitch de ce bouquin,
Alors, Sébastien. Sans trop vous spoiler, évidemment, ça raconte l'histoire d'un comédien, Albert Stéphan, qui, après des débuts prometteurs, voit sa carrière s'essouffler et tombe progressivement dans l'anonymat. Jusqu'à ce qu'il découvre Émile Ajar, le pseudo sous lequel Romain Gary a remporté son deuxième prix Goncourt. Et donc, il lui vient l'idée, comme lui, de se créer une nouvelle identité avec l'aide de deux de ses amis, un producteur et un maquilleur d'effets spéciaux, et donc de se grimer pour se donner une nouvelle chance et ainsi se jouer de la grande famille du cinéma qu'il a petit à petit mise au placard.
On sent un petit esprit de vengeance hein, dans ce livre de Philippe Torreton. Alors comme vous le disiez, célèbre comédien, acteur, écrivain, qui va proposer cette lecture, ce sera le 29 avril, n'est-ce pas ?
Exactement, le 29 avril au théâtre Beaumarchais d'Amboise. L'entrée est gratuite, c'est simplement des invitations à retirer à l'espace culturel du Leclerc d'Amboise.
On peut d'ores et déjà prendre contact avec le Leclerc d'Amboise ?
Tout à fait, oui, nous avons déjà les souches, il y a ce qu'il faut, vous pouvez venir nombreux et surtout, oui, venez nombreux.
Alors ce livre, j'imagine qu'on peut se le procurer à l'espace culturel Leclerc d'Amboise.
Oui, tout à fait. Bien sûr, vous pouvez vous le procurer à l'espace culturel Leclerc, mais vous pourrez aussi vous le procurer le soir de la lecture au théâtre d'Amboise, ainsi que les différents ouvrages de M. Torreton, puisqu'il y aura ce qu'il faut. Et avec un peu de chance, peut-être vous le faire dédicacer.
C'est ça, parce que l'idée, c'est qu'il y ait une lecture, mais aussi un échange, je crois, après la lecture, avec possibilité de dédicace.
Exactement. Une lecture, donc, je ne pense pas de l'œuvre complète, mais surtout, oui, un échange possible après avec l'auteur.
Très bien. Peut-être d'échanger, d'ailleurs, avec Philippe Torreton autour d'un petit cocktail offert par Leclerc.
Peut-être.
Comment ça se décide, une programmation comme celle-là, puisque c'est la première édition, donc vous essuyez un petit peu les plâtres de cette organisation. Comment ça se décide ? Est-ce que chaque centre culturel Leclerc a la main libre pour la construire ? Est-ce qu'il y a des injonctions nationales ? Comment ça se prépare ?
J'ai envie de dire que depuis 10 ans, c'est quelque chose qui est relativement rodé. Et au final, il y a une société de production qui gère tout ça en amont au niveau national et qui nous propose un catalogue d'artistes disponibles.
Qu'on a pu feuilleter ensemble juste avant cette émission. Il y a Oxo Puccino, par exemple, qui l'année dernière est intervenu à Blois.
Exactement, il a fait lecture concert.
Ce rendez-vous, selon vous, Sébastien, il s'adresse à un public déjà sensible à la littérature ou est-ce que ça peut être un moment de découverte aussi pour des amateurs ?
Je pense, moi, que c'est un moment de découverte. De toute façon, la culture, elle est à découvrir, quoi qu'il arrive. Et donc, il ne prend aucun risque à venir découvrir un acteur qui va lire son texte. Texte qui plus est, me semble plutôt sympathique à écouter.
Philippe Torreton, d'ailleurs, que l'on retrouve actuellement à l'affiche de La Promesse Verte, aux côtés notamment d'Alexandra Lamy, un film que vous pouvez aller découvrir, entre autres, chez notre partenaire du CGR de Tours Centre, puisqu'il est toujours à l'affiche actuellement. Donc un Philippe Torreton, multifonction, couteau suisse, comédien, acteur, écrivain, qui présentera son dernier livre, Un cœur outragé, aux éditions Kalman-Lévy, et qui donnera à voir avec finesse les turpitudes et le règne des apparences constitutives de l'univers du cinéma, comme vous nous expliquer, Sébastien, il y a quelques instants.
Oui, et j'aimerais rebondir, vu que vous parlez de partenaires, je souhaitais remercier la mairie d'Amboise ainsi que le service culturel d'être partenaire de cet événement qui, je le répète, est gratuit.
Eh bien, merci Sébastien Balu d'être venu dans le studio de Radioactive pour présenter cet événement, le 11e Festival Culturissimo, un événement qui prône l'accès à la culture pour tous et partout, avec ce rendez-vous à ne pas manquer pour les amoureux de littérature et de cinéma, avec Philippe Torreton, le 29 avril au Théâtre d'Amboise à 19h pour une lecture publique, mais toutefois sur réservation, de son livre Un cœur outragé aux éditions Kalman-Lévy. Où est-ce qu'on peut se renseigner ?
Bien directement à l'accueil de l'espace culturel du Leclerc d'Amboise.
Très bien. Et si on ne veut pas se déplacer, site internet, page Facebook ?
Page Facebook.
Ouais, très bien. Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup, Sébastien.
Merci, Marlène.
C'est la fin de ce mag. On se retrouve mercredi à 18h pour un nouveau numéro. En attendant, restez bien à l'écoute de nos programmes sur le 93 et le 94.7 FM.
Radioactive. La Touraine a trouvé sa radio. Est-ce que tu crois que dans les bureaux, que les politiciens désertent leurs secrétaires en attendant, chantent des chansons de bruyant, ont-elles peur de se faire disputer si des fois ils venaient travailler? Yeah. Est-ce que tu crois hein, qu'il est facile de s'occuper de sa famille, trouver un fils, un logement, un emploi au gouvernement? On n'a pas le temps de s'occuper de ça quand on s'endort sur les bancs du Sénat. Heureusement, il y a Frida. la fille du Nord des chansons de Brel. Est-ce qu'elle a existé vraiment? Tout ça aussi c'est du boniment. Il y a des questions que je me pose, des questions que je me pose. Est-ce que tu crois que les toreros font juste ça comme un boulot sous prétexte que c'est en plein air, comme ils habitent pas loin de la mer et que sur leur costume à la con, c'est leur mère qui retourne les boutons? C'est plus pratique. Je t'en trouverai moi des jobs d'été, transport de fond, c'est mal payé quand il se passe rien, tout va très bien mais c'est un boulot qui tue bien. En connais-tu toi des pays où t'emmerder te sauve la vie? Heureusement y'a Frida, la fille du Nord des chansons de Brel. Est-ce qu'elle a existé vraiment? Ou ça aussi c'est du boniment? Il y a des questions que je me pose, des questions que je me pose. Comme tous les perdants du loto. Heureusement y'a Frida, la fille du Nord des chansons de Brel. Est-ce qu'elle a existé vraiment? Ou ça aussi c'est du boniment?
C'est du boniment, c'est du boniment, c'est du boniment. Thank you.
94.7, la Touraine dans la radio.
La Touraine.
Radioactive, radioactive.
Espace Santé Gène.
Et si on en parlait ?
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Espace Santé Gène et si on en parlait ? Animée par les membres de l'équipe de l'Espace Santé Gène d'Indre-et-Loire, cette émission a pour objectif d'aborder diverses thématiques de santé qui font l'actualité. Je suis Célia Tranchant, accueillante assistante sociale, et aujourd'hui je suis accompagnée de Bastien Poivre, en deuxième année de formation d'assistante sociale à l'Espace Santé Gène. Bonjour Bastien.
Bonjour Célia.
Flemme, c'est un mot qu'on entend souvent dans la bouche de nos ados, et les parents sont les premiers à le confirmer régulièrement. Mais alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce mot ?
Alors, derrière le mot « flemme », on a surtout donc, cette idée de un adolescent qui fait rien de ses journées, qui n'a pas envie de participer à quoi que ce soit, il est tout le temps fatigué. Il y a vraiment ce côté « j'ai envie de rien faire, j'ai pas la force pour ». Et en fait, c'est vraiment cette première image qu'on a et que les parents vont garder justement de leurs ados, c'est quelqu'un qui est juste pas intéressé par ce qui se passe autour de lui. Après, il faut se dire que pendant l'adolescence, en fait, il y a cette période de puberté. Et cette période-là, c'est un changement qui est vécu de manière assez violente pour les jeunes. C'est un changement du corps et c'est le passage de l'âge d'enfant à l'adulte. Et ça fait que les adolescents sont souvent très fatigués par cette période-là. Et c'est une des choses qui se cache derrière la flemme, en fait. C'est ce côté fatigué, pas d'énergie, pas de force, rien. Ils peuvent rien faire, quoi.
C'est vrai que dans la conscience collective, j'ai envie de dire, quand on pense ado, on se dit que c'est tous des flemmards et qu'ils n'ont aucune motivation. Et en effet, la flemme, en fait, elle cache souvent beaucoup de choses derrière. Là, tu viens de le dire, on a la fatigue parce que, bah oui, la croissance, ça fatigue. C'est pour ça que les ados, ils dorment, ils ont un rythme un peu différent que l'adulte ou que l'enfant à cette période-là. C'est pour ça qu'ils vont dormir, ils vont avoir un besoin de sommeil un petit peu plus important aussi. Après, la flemme, elle vient peut-être dire aussi beaucoup d'autres choses. Oui. Là, on voit le côté un peu fatigue, mais derrière, ça peut aussi peut-être cacher quelque chose au niveau émotionnel, au niveau mal-être.
Ça peut être, effectivement, ça peut être au niveau des émotions, ça peut, à ce moment-là, il y a plein de choses qui se passent, on a des difficultés à gérer nos émotions. Et je pense que le fait de devoir justement commencer à s'affirmer, le fait de grandir, en fait, ça nous donne des responsabilités, ça cache plein de choses. Et c'est compliqué pour les jeunes, justement, de réussir à trouver cet équilibre-là. Donc
Puis je rebondis sur l'affirmation de soi, le fait quand un ado par exemple il dit oh non, j'ai la flemme de vider le lave-vaisselle que le parent demande depuis je ne sais combien de temps, ça peut aussi être une forme d'affirmation de soi en disant bah j'ai pas envie de le faire, donc je veux montrer que j'ai pas envie de le faire. Et du coup on le cache un peu sous ce mot flemme. Donc le fait de dire ça, c'est une forme d'affirmation de soi, parce que l'adolescent il tend en fait vers l'autonomie, vers la liberté et la séparation un petit peu des parents. Donc ça peut être une forme d'affirmation de soi, le fait de refuser un peu ces tâches qu'imposent les parents.
Oui, il y a ce côté vraiment opposition parent-enfant, le fait de dire bah oui, mais moi j'ai pas envie de le faire. C'est vraiment essayer de trouver son identité à ce moment-là. C'est se détacher de l'image qu'on a du parent et du coup essayer de nous représenter tel qu'on est finalement à cette période-là.
Et d'une manière comme une autre, de rester un petit peu encore enfant sous la charge de responsabilité qu'on commence à nous imposer à cet âge-là. Donc c'est vrai que les ados, en fait, ils sont dans cette envie d'autonomie et en même temps, on leur donne de plus en plus de responsabilités qui les amènent vers l'autonomie. Mais ça peut faire peur. Donc oui. Le fait de se mettre un petit peu en retrait, de dire « c'est bon, moi j'ai la flemme de faire ça », ça peut protéger aussi un petit peu l'adolescent quand il sent que ça va trop vite dans cette autonomie que les parents lui amènent.
Oui, totalement. C'est vrai que derrière la flemme, on peut aussi retrouver cette idée d'avoir peur de grandir, cette idée de se dire j'ai pas envie de grandir, mais en même temps, j'ai envie de grandir. Il y a vraiment ce côté très paradoxal de l'adolescence. C'est essayer de trouver un moyen de se détacher de tout ça. Et à ce moment-là, oui, on revient encore au thème des émotions. C'est que la peur, elle est là, elle est présente. Et on sait pas comment la gérer parce que la vision des parents, est-ce qu'on va pouvoir aller leur en parler ou pas? Est-ce qu'on le garde pour nous? Est-ce qu'on en parle avec des amis? Est-ce qu'on n'en parle pas? Il y a toutes ces questions-là, en fait, qui se posent à ce moment-là.
Et puis c'est vrai que la période adolescente, c'est le moment où, adolescente, jeune adulte, c'est le moment où on commence à
mine de rien, il y a beaucoup de choses en fait qui s'y jouent pour leur avenir aussi. Quand un jeune procrastine un petit peu sur le fait de cocher une case sur une fiche de vœux, de s'inscrire sur Parcoursup ou autre, mine de rien, c'est des choses qui vont engager le jeune sur une piste, sur une voie professionnelle ou autre. Et là, on en revient sur le côté émotionnel. Ben, en fait, le stress, la peur, toutes ces choses-là, ça peut amener le jeune à procrastiner un petit peu et se dire, bah, en fait, je le ferai demain, je vais le repousser le plus possible parce que bah, ça m'angoisse, en fait.
Ah, c'est ça, c'est qu'en fait, là, on impose quelque chose à un jeune, à quelqu'un qui est en train de se construire socialement et même au niveau de son avenir professionnel. Et le fait de ne pas savoir où on va, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut faire peur. Et quand on n'a pas forcément toutes les clés en main pour avancer, c'est quelque chose qui peut justement amener à procrastiner. Et en fait, cette procrastination, elle a un autre sens derrière. C'est vraiment ce côté, je ne sais pas où je vais, il faut que je le fasse, mais comment je le fais? Est-ce que je le fais maintenant? Est-ce que je le fais dans une semaine? Est-ce que je suis encore dans les temps? Enfin, il y a toutes ces questions-là qui se posent à ce moment-là.
Complètement. Et puis en effet, des fois, le mot flemme, bah, il peut aussi traduire d'un mal-être.
Oui.
Quand on a des jeunes, je ne sais pas, qui ne vont pas faire leurs devoirs, qui vont parfois sécher les cours ou des choses comme ça, bah, des fois, ça peut peut-être venir traduire d'autres choses. Peut-être un sentiment de mal-être dans le groupe à l'école. Je ne vais pas forcément utiliser les mots de harcèlement, mais vivre mal l'interaction avec les autres, le fait d'avoir cette souffrance, en fait, que ça soit scolaire ou pour n'importe... Je sais pas, par exemple, un ado où ses parents sont séparés, qui vit mal, il aime pas forcément la nouvelle conjointe de son papa ou le nouveau copain de sa maman. Bah, peut-être que pour lui, c'est un mal-être, c'est une souffrance. Et du coup, bah, il va avoir des attitudes, en fait, de ce qu'on peut entendre par flemme, parce qu'il y a un manque de motivation, parce que le jeune va se renfermer un petit peu. Et en fait, on n'est pas dans la flemme. On est dans des fois la souffrance et un mal-être.
Oui, c'est complètement ça. C'est qu'on se retrouve face à une situation qu'on va devoir gérer, on ne sait pas comment faire. Et encore une fois, bah, le sentiment de peur et de mal-être, ça peut se combiner. Et au final, c'est ce qui fait que, bah, on se dit, bah, si je dois faire des choses, est-ce que j'ai vraiment envie de les faire ou est-ce que je peux juste me dire, bah, j'ai le temps, je me laisse ce temps-là? Et c'est une façon de se protéger aussi.
Mmh, complètement. Après, il faut se le dire aussi, la flemme, ça peut être tout simplement un moment où on a envie d'être tranquille, on n'a pas forcément envie de faire certaines choses. J'ai envie de dire que la flemme, des fois, ça peut être aussi une opportunité de rêver, de se poser, de décompresser tout simplement.
Oui, complètement.
Donc c'est pour ça, c'est important de... J'ai envie de dire là, un peu pour les parents, quand vous voyez que votre enfant, il dit tout le temps flemme, qui procrastine, qui vous sentez qu'il n'y a peut-être pas de motivation, peut-être questionner derrière voir ce qui se passe un petit peu pour ce jeune. Et puis bah, des fois, c'est un petit peu bah, aussi réussir à le mettre en action. J'ai envie de dire aussi, des fois, trouver le rythme de l'adolescent, parce que bah, le rythme de l'adolescent et le rythme du parent ou de l'institution ou autre, bah, c'est pas le même. Donc réussir à trouver les bons rythmes aussi. Et puis bah, oui, le mettre en action, parce que bah, on en parlait dans une autre émission, mais au niveau des hormones et partir un peu à la chasse aux endorphines et du coup se lever et se motiver et faire quelque chose, bah, des fois ça peut ramener de la motivation, justement parce que bah, voilà, le cerveau, il est un peu... J'ai la flemme, voilà. Redonner un petit peu de motivation, redonner un petit peu d'hormones, bah, ça relance aussi un petit peu les jeunes sur des actions, des activités.
Ouais, essayer de retrouver un petit peu de sens à justement cette vie d'adolescent que les jeunes sont en train de vivre et essayer de trouver un lieu ou alors quelque chose, une activité à faire qui va faire que bah, ils auront plus à penser à justement tout ce qui les travaille à ce moment-là et plus à se cacher derrière cette flemme justement qui est vraiment un mot très général pour justement faciliter la compréhension, enfin, dans l'esprit des parents, en tout cas, ça permet de faciliter la compréhension de ce que vivent les jeunes à ce moment-là. Alors qu'en fait, ça peut cacher justement tout ça. Et si on arrive à un moment à trouver quelque chose qui peut nous motiver et justement nous faire avancer, bah, ça permettra de passer justement ce stade de flemme à se dire, bah, ok, je suis capable de faire ces choses-là. Et ça, ensuite, on repart sur la confiance en soi, la gestion des émotions, etc. Donc, c'est toujours pertinent.
Eh bien, merci beaucoup, Bastien.
De rien.
Cette émission se termine, merci de nous avoir écoutés et on se retrouve pour une prochaine émission. N'hésitez pas à nous faire part de thématiques de santé que vous souhaiteriez que l'on aborde sur notre page Facebook espacesantéjeunes.accueilécoutejeunes37 et vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet Espace Santé Jeunes. À bientôt. We'll be right back.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
L'émission Regarde ailleurs donne la parole à des gens que je rencontre un peu partout, soit en France, soit à l'étranger, avec cette dimension de l'interculturel et du voyage. Il y a quelques années, je me déplaçais, je ne sais plus où, et je tombe sur ce bouquin qui racontait l'histoire d'un voyageur qui avait fait le pari de partir sur les routes du monde et essayer de réduire au maximum ses besoins et de vivre cette économie du temps comme tu en parles dans le bouquin. Et Benjamin Lesage, donc aujourd'hui je suis chez toi sur ton terrain où tu as fait le choix de t'installer, mais ta vie n'a pas toujours été sédentaire, donc j'aimerais qu'on revienne un peu sur cette époque de ta vie, de ton itinéraire personnel, quand tu avais choisi de prendre la route. Donc alors, reviens peut-être là-dessus, à quel moment tu as quitté la France et pourquoi, qu'est-ce qui t'a appelé dans cette dynamique du voyage, et est-ce que dans le départ, dans les premiers pas, tu avais déjà cette envie d'expérimenter la vie sans argent?
La France, je l'ai quittée dans un premier temps quand j'avais 21 ans, donc là c'est plus une fuite avec le programme Erasmus pour partir aux Pays-Bas. Donc ça, c'était juste, oui, je pense, j'avais besoin de changer d'air. Et c'était pas très mental, on va dire, c'est plus un appel. Donc je suis parti étudier aux Pays-Bas, et c'est aux Pays-Bas que j'ai commencé à m'ouvrir, à, on va dire, au monde, à l'international. Et aux Pays-Bas, j'ai rencontré notamment un Allemand, un Italien, on est devenus très proches, très amis. Et c'est là où a vraiment commencé aussi mon envie de vouloir voyager, de vouloir découvrir le monde. Avant ça, j'y pensais pas forcément beaucoup. Et avec Raphaël et Nicolas, quand on a terminé nos études aux Pays-Bas, on s'est dit, faut qu'on fasse un voyage pour fêter ça. Pour célébrer la fin de nos études et commencer notre arrivée dans le monde. Sauf que ce voyage, on voulait pas que ce soit juste un voyage en mode baroudeur. On avait envie que ce soit un petit peu exceptionnel. On avait nos égos, on avait envie de nourrir ça, de se dire qu'on n'était pas n'importe qui. Donc on s'est dit, on se fait un voyage, mais le plus écologique possible. On essaye de faire un truc où vraiment on a l'empreinte écologique la plus basse possible. Et en essayant de voir comment on pouvait faire ça, donc c'était clair qu'il fallait pas qu'on utilise l'avion. Mais on voulait aller un petit peu plus loin aussi. On s'est dit, si on peut pas consommer, si on va avoir un impact écologique le plus bas possible, le mieux c'est de ne rien acheter. Donc on est parti sur cette idée que si on n'avait pas d'argent, mais vraiment pas du tout, et qu'on n'achetait rien, on aurait un impact écologique le plus minime possible. Donc c'est avec cette idée qu'on a commencé à échafauder le plan de ce voyage. Donc on a quand même acheté pas mal de choses au départ, des panneaux solaires sur nos sacs à dos, un filtre à eau, des essentiels comme ça, des bonnes chaussures, et un ordinateur et des appareils photo. On voulait faire un documentaire aussi, donc on a tout perdu presque, et donc on est parti, c'était janvier 2010, donc moi j'avais 25 ans, et là on est parti, on voulait aller au Mexique, parce qu'on connaissait le Mexique, on avait fait notre stage là-bas, et on s'est dit, on va aller au Mexique sans argent, donc l'idée, sans avion, et tout faire en autostop, en bateau-stop, pour se nourrir. On avait prévu de faire les poubelles, on avait déjà commencé à faire un peu de récup à l'époque, et de dormir où on pouvait. On n'avait pas pris de tente. C'était pour l'idée qu'il fallait qu'on dorme soit chez les gens, soit dehors comme ça. Donc voilà, c'était un peu dans l'idée, il y avait quand même vraiment de se prendre des claques, un peu de se frotter à la vie, d'y aller un peu sans trop préméditer. On n'avait pas d'itinéraire. On s'est juste dit, faut qu'on aille au Mexique. Et on avait, moi j'avais lu le livre de Ludovic Hubler qui a fait le tour du monde en 5 ans, et du coup je savais qu'on pouvait traverser en bateau, de par les îles Canaries ou l'Afrique en tout cas. Donc on est parti direction le Maroc avec cette idée-là. Donc on est parti à trois. Au début, ça a été assez difficile le stop. Hein. Surtout qu'on est parti en janvier, on n'a vraiment pas prémédité le truc. Donc on a vraiment eu très froid. Ça a été très difficile. Et surtout qu'on n'était pas doués du tout. J'ai connu d'autres personnes après. Par exemple, Moutz de Nuit Culottée. On en connaît qui partent. Ou même Mouammer, qui partent avec cette énergie de « Ah, je fais confiance au monde », tout ça. Et oui, bonjour, est-ce que je peux dormir chez vous? Enfin voilà, il y en a qui arrivent à le faire, mais nous, c'était pas du tout ça. On était, moi en tout cas, plutôt timide, plutôt avoir peur de demander aux gens, plutôt à pas trop savoir où me mettre. Donc on a dormi dans une cage d'escalier, on a dormi dehors, on a dormi dans les stations essence, mais on n'osait pas demander aux gens. C'était trop difficile de se rabaisser, en fait. J'ai appris après que c'était se rabaisser d'accepter qu'on avait besoin des autres. On n'arrivait pas à demander à manger non plus. On cherchait dans les poubelles et on avait notre sac de raisins secs qu'on avait pris avec nous, mais c'est vrai que c'était très... Ouais, c'était pas du tout le côté romantique de on part à l'aventure et puis on fait confiance au monde. Et non, au départ, c'était vraiment chaud. Donc ça commençait à aller mieux au bout de 2-3 semaines quand on arrive au sud de l'Espagne finalement. Trois Barbies, on a quand même réussi à faire du stop. C'était un peu un miracle au final. Mais on a réussi jusqu'à atteindre le sud de l'Espagne. Donc là, il commençait à faire chaud. On pouvait manger des oranges sur les arbres, c'était la pleine saison. Et on a aussi rencontré pas mal de gens qui vivaient dans des squats en Espagne. C'était avant le 15M, non, avant toute cette un peu cette révolution. Mais il y a énormément de gens dans les squats, des personnes d'Afrique, mais aussi des Espagnols ou des gens de toute l'Europe, en fait, qui allaient à Barcelone, à Valence, à Séville et qui voulaient vivre différemment. Donc eux, ils nous ont un peu initiés à la vie sans argent. Parce que, du coup, on a rencontré des gens où il y a beaucoup aussi de Colombiens, Vénézuéliens, de personnes d'Amérique latine qui étaient là et qui n'avaient pas de sous, qui n'avaient pas de papier, et du coup qui devaient vivre comme ils pouvaient, donc dans des squats, et qui récupéraient la nourriture dans les poubelles, ou qui eux avaient appris par la force des choses à demander, les invendus sur les marchés ou à la fermeture des boutiques.
Mais là, c'était pas choisi, c'était vraiment plutôt quelque chose de subi. Vous, votre démarche était vivre sans argent, mais d'une manière choisie.
Oui, ben voilà, nous c'était choisi, eux c'était pas choisi, mais c'est eux qui nous ont appris les techniques, quoi, les ficelles de comment vivre comme ça. Ils comprenaient, la plupart quand même comprenaient vraiment notre éthique, dans le sens où eux, c'était pas choisi, mais d'une certaine manière, c'était aussi une sorte de protestation. Donc il y avait un choix pour eux de, mais non, mais je vais pas juste trouver un boulot, et puis non, on a envie de vivre différemment, on n'a pas envie de se faire marcher dessus, et il y a des solutions qui existent. Et ces solutions, c'était le squat, c'était un squat politique souvent. Il y avait de la nécessité, mais il y avait aussi ce truc, ben non, c'est pas normal qu'il y ait autant de maisons vides en Espagne. C'était juste après la crise immobilière, et non, c'est pas normal, donc on va les habiter. Et il y a beaucoup trop d'invendus, c'est pas normal, donc on va les manger. Donc il y avait, c'était pas choisi, en même temps il y avait une dimension politique qui résonnait avec la nôtre, du coup, qui se construisait. Nous, on était partis un peu en mode Paris, et c'est vrai qu'au fur et à mesure, on était vraiment en train de se dire, non mais c'est génial la vie sans argent, et surtout c'est pertinent. On se rendait compte que c'est pas juste une question de, voilà, de se balader tranquille, de vivre sans le sou, d'être comme l'oiseau. Il y avait aussi ce fait, mais en fait, il y a énormément d'injustices, et une grande partie de ces injustices sont quand même centré autour de l'usage ou de la valeur qu'on donne à l'argent aujourd'hui. De ce fait qu'il y en a, des personnes en ont beaucoup, d'autres en ont pas beaucoup, et de tout ce que ça implique. Donc après l'Espagne, on a continué le stop, on a fait notre premier bateau stop en s'embarquant avec des camionneurs. Donc il y a des camionneurs qui passent de l'Espagne au Maroc, il y a un ferry, c'est 20 km, hein, c'est pas très long. Et en fait, pour faire ça gratuitement, c'est très compliqué, mais chaque chauffeur de poids lourd avait le droit à un copilote gratuit. Donc en fait, on est allé avec trois camions, deux Suisses et un Marocain, qui nous ont fait traverser avec leur camion. On a même eu un repas, c'était le premier vrai repas complet qu'on a eu depuis le départ, 4 semaines plus tôt. Et donc c'est comme ça qu'on est arrivé à traverser le détroit pour arriver à Tanger.
Donc changer de continent, mais donc là, je comprends bien que c'est pas du tout évident, c'est un vrai challenge. Il n'y a pas eu des moments où vous vous êtes dit, bon allez, pour simplifier les choses, on va se payer un billet de ferry ou quelque chose. Il y a vraiment cette volonté de rester intègre jusqu'au bout, quoi.
Ouais, ça c'est vrai que je pense que surtout Raphaël et moi, on avait Nicolas à plusieurs points était sur le moment à se dire, bon bah on est en train, c'est du sadomasochisme, c'est pas ça qu'on a envie de prouver. Mais c'est vrai que Raphaël et moi, on était très obstinés. Et je pense qu'il y avait vraiment inconsciemment, je l'ai appris après, inconsciemment en moi, il y avait vraiment l'envie de me prendre des claques. Je voulais de la difficulté. J'étais content de dormir dehors, j'étais content d'avoir faim. Je pense que j'ai toujours énormément lu de littérature, donc c'est vrai que dans ma tête, il y avait un peu ce côté à la recherche de cet extrême qu'on peut trouver dans la littérature ou dans les films. J'avais envie de vivre, vraiment. Et je pense que cette vie-là sans argent, je la désirais ardemment aussi parce que j'avais envie de ressentir toutes ces choses-là qu'on lit, qu'on entend. J'avais envie d'être cette personne qui pouvait avoir faim, qui pouvait avoir froid, qui dormait dehors, qui avait mal au dos, qui galérait. Donc du coup, on s'obstinait parce que c'était un apprentissage et il y avait un vrai plaisir. Il y a vraiment un vrai plaisir sadomasochiste là-dedans un petit peu quand même. Et le changement de continent a été très dur aussi. Quand on arrive au Maroc, ça a été une vraie claque, hein. Déjà, bon, alors moi je suis né dans une banlieue entourée entre autres de Marocains, donc c'est vrai qu'il y a plein de préjugés qu'on a sur le Maroc et sur les Marocains et sur les musulmans et sur toute une culture qui nous dépasse au final. Et c'est vrai qu'en arrivant là-bas, ça a été c'était un choc de se confronter à une réalité qu'on pouvait pas vraiment percevoir. Et cette réalité, elle a pris la forme de trois Européens blancs de peau qu'on choisit de vivre sans argent, mais qui pourraient en avoir plein. Donc ça, on nous l'a répété plusieurs fois. Trois colonisateurs, c'est comme ça qu'on nous appelait des fois quand on rencontrait surtout des Sénégalais ou des Maliens qui essayaient de traverser dans l'autre sens. Mais du coup, une générosité comme on n'en avait jamais... Enfin, ça a été très dérangeant à plein de moments de se retrouver accueillis. Les personnes qui nous amenaient chez eux, qui insistaient pour qu'on dorme dans leur lit. Il y a des personnes qui nous ont laissé leur appartement entier pour qu'on soit le plus à l'aise possible, qui nous nourrissait. On n'arrivait pas à faire de la récup. Déjà parce qu'il y avait beaucoup moins d'invendus. Au Maroc, il y a quand même une autre conscience de partager la nourriture avec ceux qui ont moins de moyens. Donc beaucoup moins d'invendus, donc la récup très difficile. Et en plus, les gens insistaient pour nous offrir quelque chose. Quand on demandait dans un restaurant pour les invendus, ils disaient « Ah mais non, pas moyen, asseyez-vous, je vous offre un repas ». Donc ça a été vraiment un choc de se retrouver du coup sur le début du continent africain avec des Marocains, avec tous les préjugés qu'on peut avoir en Europe sur eux, et d'un coup se rendre compte qu'on était traités vraiment comme des rois. Et c'était les Marocains, mais quand on rencontrait un Algérien, c'était pareil. Puis on a rencontré un Irakien, et puis des Libanais, en fait, toutes les personnes qui étaient au Maroc pour une raison ou une autre, qui avaient des restaurants ou des choses, et qui avaient cette générosité, ce cœur sur la main, inconditionnel, sans chercher à savoir, OK, vous êtes des Européens, vous pourriez avoir de l'argent, vous pourriez travailler, mais ça m'est égal. Sur le moment présent, tu as faim, je te donne à manger. Ça a été la grosse claque du voyage, et aussi qui nous a montré à quel point on était dans l'erreur des styles de vie qu'on avait en Europe. De se rendre compte à quel point, oui, ce confort, cet individualisme, toute cette chose qu'on vivait, qu'on expérimentait en France ou aux Pays-Bas, c'était quand même basé sur un mensonge et que l'essence de la vie n'était pas là.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Est-ce qu'il n'y a pas des fois un sentiment de culpabilité dans ces situations où tu te fais nourrir par quelqu'un qui potentiellement a moins de pouvoir d'achat que toi ou moins d'argent que toi? Mais toi, tu as choisi de vivre cette expérience, donc finalement l'autre devient quelque part le serviteur de quelqu'un qui pourrait tout à fait s'offrir ce repas.
C'est étrange. Bien sûr, il y a eu le sentiment de culpabilité. Ce qui est très intéressant, c'est qu'au final, moi, je me suis senti... on pourrait dire, oui, c'était un peu comme des serviteurs, eux, mais en fait, c'est moi qui me sentais très mal. J'avais énormément de mal à accepter. Un jour, je me suis énervé contre un de nos amis marocains qui nous avait hébergés pendant 3 jours. Il insistait pour nous héberger pour 3 jours et 3 nuits. Il insistait parce qu'il nous disait que dans le Coran, ou en tout cas, il avait lu que quand un passager arrive, eh ben, il faut lui donner le gîte et le couvert pendant 3 jours et 3 nuits. Et je me rappelle qu'à la fin, je me suis même énervé contre lui parce que j'en avais marre de toute cette gentillesse, de toute cette bonté. C'était trop. Et parce qu'en fait, je me sentais aussi... ça cassait les codes. En fait, quand je suis rentré en France après, on m'a toujours dit « Ah, mais en fait, t'es un profiteur. T'es allé dans des pays où les gens, ils ont pas de sous et t'as profité d'eux. » Mais ce commentaire-là, je ne l'ai pas entendu une seule fois. Ni au Maroc, ni en Amérique latine. En fait, toutes les personnes qui nous ont accueillis, ça, on nous a jamais fait un commentaire pareil. Parce qu'ils ont une autre vision des choses. Ils ont pas cette vision, cette dualité blanc, noir, riche, pauvre, serviteur, tout ça. C'est juste, bah tiens, là tu arrives, t'as un besoin, bah moi je te le donne, j'ai pas à me poser de questions. Et j'ai confiance en Allah ou dans Dieu ou dans autre chose qu'un jour on me le rendra aussi. Et ça c'était fort, c'était ouais une grosse découverte, mais qui était très troublante. J'ai mis des mois à m'en remettre.
L'étranger est un ami qu'on n'a pas encore rencontré.
Oui voilà, c'est ça. Et on nous disait, au Maroc on aimait beaucoup le mot passager, ils nous disaient, ah vous êtes des passagers. Vous êtes de passage et nous, on doit vous accompagner dans ce chemin. En fait, avant nous, ils avaient déjà compris que c'était un parcours initiatique. C'est-à-dire, on ne le savait pas, mais eux le savaient déjà. Ils savaient qu'ils nous aidaient vraiment à casser des barrières, à casser des codes, à nous déconditionner, à apprendre à être à nouveau, quoi. Et ensuite, le Maroc, on est resté 1 mois et demi. Et là, c'était recherche d'un voilier. On savait qu'il fallait aller aux îles Canaries et rejoindre Las Palmas pour trouver des bateaux. Parce que pour les voyageurs, il y en a peut-être beaucoup qui le savent déjà, mais si on veut traverser l'océan en voilier, Las Palmas aux Canaries, c'est l'endroit particulier, c'est le dernier point avant l'Amérique en fait. Donc tous les voiliers qui vont là-bas, qui partent de France, d'Espagne, de mer Méditerranée, d'où on veut, ils vont faire une escale aux Canaries pour un dernier ravitaillement, tout ça, et après ils vont traverser l'océan. Et pour aller là-bas, donc on a passé plusieurs semaines au Maroc à aller sur les différents ports pour essayer de trouver un bateau, un peu en vain. Et finalement, on a trouvé un Belge qui allait aux îles Canaries, qui a accepté de nous prendre, qui a été trop sympa. Donc, c'était un tout petit bateau de 10 mètres. Donc, on est monté dedans et c'était notre première expérience en voilier. On a vomi pendant 24 heures non-stop, je crois, Raphaël, Nicolas et moi. On a vraiment cru qu'on allait mourir. Elles sont très tumultueuses, les eaux vers le détroit. Donc, c'était beaucoup plus agité que la traversée de l'océan en tant que telle. Et en arrivant aux îles Canaries, là, ça a été le retour au confort et à l'Europe. C'était un peu bizarre. Mais et là, on a passé 1 mois et demi avant de retrouver un autre voilier. Donc, on était un peu hors saison. La saison idéale, c'est de novembre à février pour trouver un voilier. parce que c'est un peu la mode, la période pour traverser, il n'y a pas d'ouragan, et puis c'est pour aller passer l'hiver aux îles Caraïbes. Et nous, c'était déjà en avril, donc c'était un peu trop tard, mais on a quand même trouvé finalement deux Italiens qui partaient au Brésil et qui cherchaient justement des personnes pour les aider. Ils préféraient des personnes qui n'avaient pas d'expérience, parce que comme ça, ils pouvaient juste faire à leur manière. Et ils nous ont avoué qu'ils auraient préféré que ce soit des femmes. Mais bon, il y a très peu de femmes qui cherchent à faire ça. Pas forcément tort, peut-être, sur certains points.
Mais jusque-là, jusqu'au départ en bateau pour cette traversée de l'Atlantique, c'était toujours sans argent. Et aucun sou, aucun échange monétaire.
Non, oui, zéro. On n'a rien acheté. On n'a pas eu besoin d'argent aussi grâce à nos passeports pour le Maroc, tout ça. On n'a vraiment rien utilisé d'argent. On n'a pas eu besoin, que ce soit pour la nourriture, le logement, tout ça. On se l'était interdit aussi. On avait quand même une carte bancaire dans le sac pour les urgences. On ne l'a pas utilisé. Et nos premiers euros, on les a utilisés quand on est arrivé en Guyane pour le visa, pour refaire mon passeport, parce que je m'étais fait voler mes affaires, et pour le visa pour aller au Suriname. Donc en fait, 7 mois plus tard, ouais, les 7 premiers, on n'a pas utilisé ni un centime. Donc avec le bateau, on est arrivé au Brésil. Ça a pris 3 semaines à traverser. C'était beaucoup plus calme au niveau des eaux. On a beaucoup moins vomi. C'était très sympa. C'est vraiment une expérience assez magique d'être au milieu de l'eau, et surtout il y avait ce truc waouh, en fait on arrive vraiment à réaliser notre rêve alors qu'on est parti avec cette idée de pas dépenser d'argent, et en fait c'était vraiment faisable. Après, le capitaine le voyait d'un autre œil, il disait ah bah c'est bien, vous voyagez sans argent, mais moi le bateau je l'ai payé et je l'entretiens, donc c'est sûr qu'on était confronté, mais ça c'était tout le temps. On savait très bien que c'était assez illusoire, cette idée de vivre sans argent. Je pense que si on aurait pu, avec du recul, on l'aurait appelé ça différemment, parce qu'en fait c'est pas sans argent, cette idée c'est juste de pas avoir d'échange monétaire et d'arriver à faire les choses sans compter, sans idée de valeur. Et même ça, c'est compliqué parce qu'il faudrait que tout le monde soit dedans. Donc c'est voilà, il y a toujours plein de questions. On a toujours reçu beaucoup de critiques par rapport à ça, mais c'était pas le plus important. Le plus important, c'était vraiment de tenter quelque chose et d'essayer de vivre dans le dénuement, d'apprendre à recevoir. Ça a été le gros apprentissage du voyage, parce qu'on est très habitué à donner, et quand on donne, en fait, naturellement, on se sent un peu supérieur, et quand on reçoit, on se sent inférieur. C'est assez naturel. Surtout dans notre culture. Donc du coup, ouais, ça a été vraiment apprendre à recevoir constamment, et donc d'accepter cette situation de dépendance de l'autre et de notre environnement. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je conseillerais à tous les jeunes de France, de vraiment vivre dans la dépendance, pas seulement de ses parents, mais des autres, pour comprendre les liens qui nous unissent à la société, mais aussi aux autres pays, aux personnes qui travaillent pour nous tout le temps, de sentir que sans les autres, on n'est rien. Et que même si on a 10 000 euros sur un compte bancaire, ça ne change pas que sans les autres, on n'est rien. Donc ça, c'était chouette. Enfin, je pense que l'humilité ne peut jamais s'obtenir. De toute façon, c'est quelque chose qui nous arrive. Mais c'est vrai que ça nous a été enseigné au Brésil. Ça a été aussi le contact avec les Brésiliens, la pauvreté. On est arrivé à Recife, ça s'appelait. Waouh, avec des centaines de personnes qui dormaient dans les rues là, pour faire la récup. C'était compliqué aussi parce qu'en fait, il y avait énormément de gens qui se battaient pour avoir à manger. Je me rappelle qu'au début, on mangeait que des écorces de fruits. Il y avait les personnes qui faisaient les jus de fruits, et nous, on avait récupéré les écorces d'ananas, tout ça, pour avoir un petit peu de sucre. Et c'était vraiment compliqué. On arrivait à récupérer un petit peu de pain. C'est marrant, il y avait le pain français, le pain français qu'ils appelaient, des petites boules de pain qui étaient sèches, et ça, on arrivait à en récupérer. Mais c'était très difficile. Et en même temps, on voyait, oui, à quel point le Brésil, entre autres, va souffrir de cette mondialisation et des échanges injustes au niveau commercial. Donc c'était et ce qu'on a vécu au Brésil, on l'a vécu partout après en Amérique latine. C'est sûr que l'Amérique latine, c'est un merveilleux continent pour se rendre compte à quel point, que ce soit pour nous habiller, pour nous nourrir, pour le ciment, pour toutes les choses qu'on utilise, à quel point ça peut venir d'ailleurs et à quel point les personnes là-bas vont en souffrir indirectement, sans même savoir que ça vient de vous. Ils vont vous accueillir encore une fois bras ouverts, tout ça, mais ils sont même pas forcément conscients que c'est parce qu'il y a un mode de vie tel qu'on a en France que eux sont obligés de travailler pour $1 la journée pour faire un jean ou pour cultiver des ananas. C'est vrai que la deuxième partie du voyage du Brésil jusqu'au Mexique, qu'on a fait tout en autostop et un petit peu en bateau-stop aussi de la Colombie au Panama, ça a été très fortement marqué par cette prise de conscience que là, du coup, on est vraiment devenu très politique sur on vit sans argent, mais c'est pas seulement pour être libre, c'est pas non plus que pour apprendre à recevoir, c'est aussi parce qu'en fait, c'est pas normal. Il faut qu'on arrête de consommer. Comme on le fait en France, à chaque fois qu'on utilise de l'argent, derrière il y a un esclave qui travaille pour nous la plupart du temps, sauf si on arrive à acheter local, acheter que au Biocoop peut-être des produits qui sont faits dans le coin. Et donc là a commencé à venir à maturité cette idée de ce voyage écologique, c'est bien, mais il amène à quoi? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire de voyager, de vivre écologiquement, de vraiment être en harmonie avec les autres? Et là, ça s'est dit, bah oui, c'est ça, il faut qu'on continue à consommer le moins possible. Tout ce qu'on achète, et bah, il faut que ce soit des choses... si on peut ne pas acheter, mieux. Et s'il faut acheter, bah, essayer au moins de faire en sorte que ce soit le plus proche, le plus local possible.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
L'autostop en Amérique latine fonctionne très bien. La nourriture était beaucoup plus facile à trouver parce que dans les climats tropicaux, on trouvait énormément de fruits. On était végétarien à la base, on est devenu vegan parce qu'en fait, c'était encore plus facile d'être vegan là-bas. On a dormi pas mal de fois dehors, des fois chez les gens, mais il y a beaucoup d'insécurité en Amérique latine. Donc du coup, il y avait beaucoup de peur aussi. Et je gardais encore ma timidité qui disait que c'est toujours un peu difficile pour moi de demander à des gens de nous héberger. Il faut avouer aussi qu'on se sentait un peu mauvais, qu'on avait vraiment quand même cette démarche de vagabond et que des fois, on se sentait un peu mieux à l'air libre. Et parfois, quand on avait besoin de confort, on dormait chez les pompiers. Les pompiers nous ont beaucoup aidés pour nous laisser dormir dans leur caserne en sécurité. Et parce qu'on s'est fait voler les affaires aussi là-bas. Il n'y a pas eu de violence, mais c'est vrai que c'est forcément... Donc, tous nos sacs à dos solaires sont partis, l'appareil photo, l'ordinateur, tout ça, ça s'est volatilisé. On n'a pas pu faire de documentaire, mais c'était peut-être pas plus mal. Et on est arrivé au Mexique, ouais, en gros un an après le départ. Donc on a mis 10 mois pour faire le voyage. Mais le voyage s'est pas arrêté là. On s'est séparés les trois, chacun à son chemin. Mais moi, c'est vrai que j'ai continué à voyager encore sans argent pendant 2 ans au Mexique et aux États-Unis. J'ai traversé les États-Unis aussi sans argent, avec toujours cette même volonté d'expérimenter et de faire, d'aller un peu plus loin dans cette expérience aussi de qu'est-ce que ça veut dire être sans argent. J'ai rencontré Daniel Suelo qui vivait sans argent depuis 12 ans au Mexique, dans une grotte, qui m'a beaucoup enseigné aussi justement sur l'humilité, sur cette... Lui, il vivait sans argent parce qu'il disait juste, moi, je veux faire que des choses qui sont éthiques. Donc pour lui, l'argent n'est pas éthique, la banque n'est pas éthique, donc il ne l'utilise pas. Donc ça rejoignait cette idée, j'ai envie d'être centré sur moi-même. J'ai découvert la méditation à cette époque-là aussi et je me suis rendu compte que l'aboutissement au final de ce voyage sans argent, c'était celui de trouver une cohérence personnelle. Il y a ce que je pense, ce que je ressens et ce que je fais. Et que si on veut être bien avec soi-même et bien avec le monde, du coup, il faut arriver à trouver une cohérence pour penser, sentir et faire des choses qui sont en adéquation. Donc, c'est vrai que pendant longtemps, je n'ai pas réussi à utiliser de l'argent. Ça a duré 5 ans au total où je n'ai pas utilisé de l'argent parce que pour moi, je n'arrivais pas à trouver le sens. Je me disais, non, je suis en train de polluer, je suis en train d'utiliser des esclaves, je ne peux pas faire ça. Et je ressentais aussi en moi que ce n'était pas juste d'échanger des choses, de donner de la valeur aux services ou aux objets. Après, Ada est née et d'un coup, ça a changé un peu mon shift et j'ai compris qu'on peut trouver une autre cohérence, que la cohérence personnelle est importante, mais qu'il ne faut pas non plus être fermé. Donc après, je me suis dit, je peux utiliser l'argent, mais cet argent, il faut que j'utilise vraiment en conscience. Donc là, j'ai trouvé aujourd'hui un équilibre avec l'argent. Et toujours une petite nostalgie de cette époque où j'arrivais à vivre sans rien.
Qu'est-ce que c'est l'argent? Comment tu le définis?
Une valeur. L'argent, c'est vraiment une étiquette. Donc on va dire le prix. En fait, c'est l'argent, c'est ce qui nous permet de mesurer la valeur des choses, des services, malheureusement des personnes. Et c'est en ça que au début, je pensais vraiment que c'était un peu l'instrument du diable. Mais c'est pas du diable, c'est plutôt la partie de l'être humain qui a besoin de se rassurer, qui ne fait pas confiance ni à lui ni à l'autre. Donc du coup, qui a besoin d'un système pour se rassurer. Et ce système, la première chose qu'on utilise pour nous rassurer, c'est de mesurer les choses. C'est pour ça qu'on a des horloges aussi. On a besoin de mesurer le temps pour savoir comment est-ce qu'il s'écoule. Et on a besoin de donner de la valeur aux choses pour nous rassurer. Et donc c'est compréhensible, mais c'est quand même quelque chose qui naît de la peur, du manque de confiance. Donc l'argent, ça illustre tout ça pour moi, ce besoin de contrôle, ce besoin d'être rassuré et cette incapacité à juste faire confiance à la vie, à faire confiance à l'abondance qui nous entoure, à faire confiance à l'autre, à faire confiance à sa propre capacité à devenir autonome, à trouver ce dont on a besoin. Chose qui, quand on fait l'expérience de vivre sans argent, comme le voyage que j'ai fait, m'a beaucoup appris. D'un coup, je me suis rendu compte que j'avais énormément de pouvoir, que j'avais cette super capacité à trouver des solutions pour me nourrir, pour me loger, pour être en lien avec les autres. Et ça, oui, ça a été un grand apprentissage. Et j'aimerais, je ne l'ai pas trouvé, mais j'aimerais trouver la manière de pouvoir transmettre ça à plus de personnes. Parce que quand on a ce sentiment en nous qu'on peut tout faire, et ben oui, après, il n'y a plus de limites. Et je pense que là, on peut vraiment arriver à, oui, à créer un nouveau monde, celui où on fait confiance. On fait vraiment confiance en la nature, en l'autre. On n'a plus peur.
Ça me renvoie un petit peu à la vie des sadhus qu'on retrouve en Inde, hein, ceux qui ont fait le choix de la simplicité extrême et qui vivent aussi sans argent, qui refusent même de le toucher pour certains, mais qui touchent par contre une notion importante qu'on chérit tous, c'est celle de la liberté.
Moi, j'en suis juste venu à la conclusion qu'on ne pouvait pas être libre, que ça, c'était vraiment une illusion, c'était un rêve illusoire, mais qu'on peut se sentir libre et que du coup, ce sentiment de liberté... Encore une fois, il se cultive à l'intérieur et il se cultive dans cette confiance que quoi qu'il arrive, je trouverai des solutions pour faire ce que j'ai envie ou être ce que je veux. Donc je pense que se sentir libre, ça vient aussi sur cette découverte de soi, découverte des capacités qu'on a. Et donc d'arriver à et vivre sans argent, par exemple, ou vivre une expérience comme ça aussi intense, je pense qu'arrive vraiment à nous amener à dire, bon ben, sans argent, j'y suis arrivé, je suis libre de faire ça. Je suis libre de voyager, de partir, je suis libre, bon, avec un passeport, mais il y a des personnes qui l'ont fait sans passeport aussi. Je suis libre d'expérimenter le monde comme je le veux. Et ce sentiment, il est puissant. Il est beaucoup plus puissant que la liberté matérielle. La liberté de dire, ben, cette liberté qu'on nous donne, celle-là, elle n'a pas de valeur au final. Par contre, le sentiment de liberté, il est important. Il faut le cultiver, ouais.
5 ans sans argent entre l'Europe, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, tu as fait un bouquin. Ça relate un petit peu ce parcours, cette aventure. Quelle est la réflexion que tu poses dans ton livre ?
En fait, il y a deux bouquins. Il y a un bouquin qui a été publié sans un sou en poche. Et il y a un autre bouquin que j'ai écrit après, que j'ai mis gratuitement sur mon blog sansunsou.wordpress.com. Vivre sans argent, qui lui est un peu plus politique et où j'essaye de pousser un peu plus sur ma vision. Mais c'est vrai que le gros message, c'est, pour moi, c'est cohérence personnelle. D'arriver à se connecter à ce qu'on pense, à ce qu'on ressent et à ce qu'on fait. Apprendre à recevoir, c'est un autre... j'y suis pas encore, hein, j'ai encore tellement de chemin à faire pour apprendre à recevoir vraiment librement, ne pas me sentir redevable. Mais j'ai le sentiment que pour qu'on puisse donner de manière inconditionnelle, il faut d'abord savoir recevoir de manière inconditionnelle. Et ça, c'est l'apprentissage que j'ai commencé pendant le voyage, mais que j'y suis pas encore.
Et cette notion de l'économie du don, qu'est-ce que c'est ?
Alors l'économie du don, oui, c'est vrai que ça, c'est un concept que j'ai beaucoup parlé dans mon livre aussi, qui m'est très cher. Ça rejoint la roue du don, le karma en Inde, on parle beaucoup de ça aussi. Cette idée que la nature, elle fonctionne en cycle. Et toute la nature, que ce soit un arbre ou quelle que soit l'espèce vivante, va vivre dans le don, c'est-à-dire qu'elle donne quelque chose, des graines, une plante, des feuilles, mais de manière inconditionnelle. Elle ne se pose pas la question qui va la manger ou à qui ça va profiter. Elle le fait pour se reproduire et parce que c'est juste l'ordre naturel de la vie. Et donc, c'est vrai que j'ai à cœur de retrouver une économie qu'on pourrait appeler une économie naturelle, qui est en fait une économie basée sur le don, c'est-à-dire qu'il y a des ressources disponibles. Chaque personne a des fruits à donner, qu'elle peut donner. Et donc, elle va les donner, elle va les mettre à disposition sans chercher à réfléchir à qu'est-ce que les autres personnes peuvent en faire, sans chercher à se demander si cette personne mérite ou pas de recevoir ce don, de juste donner. Et de faire confiance que parce que je donne, parce que je fais partie de ce cycle, quand j'aurai besoin de quelque chose, j'aurai qu'à le demander et quelqu'un me le donnera aussi. Donc l'économie du don, c'est vraiment une économie circulaire basée sur la confiance et sur le don inconditionnel désintéressé, qui est très difficile à atteindre, mais qui est possible. Je pense qu'en s'entraînant et à plusieurs, on y arrivera à pouvoir juste faire confiance et je donne. Donc concrètement, ça peut être, moi je peux donner un peu de mon temps, un peu de mes mots parce que j'ai une facilité pour parler. Je peux écrire des histoires, je peux construire une serre, construire une maison, je peux faire un peu de jardin, partager les fruits de mon travail. Et d'autres personnes, par exemple, vont dire, moi, je peux soigner les dents de ta fille. Ou une autre personne peut dire, moi, je peux t'apporter, je peux faire de la musique pour toi, ou je peux t'apporter d'autres légumes que tu n'arrives pas à cultiver. Mais les personnes qui vont se sentir capables de faire quelque chose vont le faire et le donner. Et ainsi, chacun pourrait trouver sa place. Une économie du don idéal, ce serait une économie où, en fait, le désir n'aurait pas de place. Il y aurait les besoins des personnes et les ressources disponibles, et point. Et il n'y aurait pas cette idée, j'aimerais avoir plus, parce qu'en fait, non, il y a ce qui est là. Et maintenant, avec ça, on essaye de répondre aux besoins. Donc, le besoin prime. Le besoin des personnes, c'est ce qu'il y a de plus important, et c'est là il faut y répondre, en essayant, du coup, de bien faire la différence entre un besoin et une envie. Et ça, c'est un chemin spirituel très complexe.
Et donc, l'aventure continue ici, sur le domaine de Eutopia.
Voilà, c'est ça, Eutopia, un espace expérimental où on essaye de progresser un peu sur le chemin, que ce soit au niveau spirituel, matériel, en essayant de cultiver, de construire avec nos propres mains, d'être différemment avec les autres, aussi avec les plus petits, les plus petites. qui ont une grande part dans ce monde et que des fois on oublie un peu. Donc voilà, là, Ada a besoin de temps avec moi.
Allez, Ada, c'est bon, j'ai fini, Ada.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre.
Sentir.
Toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.